Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans les Fous du Volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec notre camarade Stéphane Rignot. Salut Stéphane, en forme ?
Salut Gilles, en forme, salut à tous.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Au menu du jour, évidemment, le Grand Prix de Russie, 10e épreuve de la saison. On parlera de Hamilton et de Vettel, les champions du monde punis le week-end dernier. On parlera aussi de Sochi, contre-exemple parfait de la Formule 1. On parlera aussi de Stefano Domenicali qui va prendre le volant de la Formule 1. Et puis enfin, de la guerre des trois. On parle de McLaren, de Racing Point et de Renault. On débute, Stéphane, avec Lewis Hamilton et Sébastien Vettel, les deux champions du monde du peloton qui ont été punis ce week-end, alors soit par la FIA, soit par leur employeur. On va d'abord s'intéresser au cas du sextuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui a donc été puni par la FIA pour avoir fait deux essais de départ avant le départ du Grand Prix de Sochi, dans des zones qui n'étaient pas prévues à cet effet. Il a donc écopé de 5 secondes de stop and go observable pendant la course, et on l'a trouvé très énervé, véhément même, à l'intention de la direction de course et de son équipe, avec ces mots très durs hein, qu'il a prononcés. Ils essayent de m'arrêter. On en a parlé la semaine dernière, Stéphane. L'attitude de Lewis Hamilton qui commençait à agacer un petit peu, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un retour de bâton. Il est arrivé à Sochi.
Oui, tout à fait, Gilles. On se souvient de cet épisode du Mugello, de ce restart juste derrière la voiture de sécurité. Mercedes qui s'était plein de ça, Bottas encore plus, et même en conférence de presse, et une accusation de vouloir à tout prix faire le spectacle, le show, et Michael Massi, le directeur de course, avait dit « moi je le prends personnellement pour une insulte », et on avait dit dans les Fous du Volant que Mercedes attendrait quelques grands prix difficiles, et en particulier sur la prochaine décision réglementaire sur le prochain écart. C'est arrivé. Ce que je trouve un petit peu regrettable, c'est qu'on aurait compris qu'il y ait une pénalité d'appliquer à Hamilton. On en a appliqué deux. 5 secondes, c'était le laisser dans le match pour la victoire. 10 secondes, c'était le mettre en jeu. C'est ce qui a été fait proprement. Alors, il y a eu deux pénalités de 5 secondes et Toto Wolff a dit en fait que c'était dû à un rythme irrégulier dans le tour de mise en grille. Accélération, freinage, etc. Comme quoi, il aura essayé de laisser de la gomme sur la piste, mais c'est sans objet de toute façon, parce que à cet endroit-là, autour du circuit, c'est pas pertinent. Mais on a le sentiment qu'on a chargé la barque et que même les dés étaient en fait pipés, ou en tous les cas, c'était peut-être joué d'avance, parce que la télévision finlandaise a eu l'information 10 minutes avant qu'elle soit officielle de la double pénalité concernant frappant Hamilton avant son officialisation pour tous les médias. Donc ça veut vraiment dire que, et alors que on regardait encore une fois les vidéos, apparemment officiellement on statuait là-dessus, mais l'édition était déjà prise et Mikelo le savait. Bon, vrai ou faux, je ne sais pas, mais c'est quand même très troublant parce que c'est arrivé, donc ça voulait vraiment dire qu'il fallait pénaliser Hamilton.
Alors moi j'aimerais bien évoquer un autre point, Stéphane, avec toi, c'est le fait de l'ambivalence de cette phrase, ils veulent m'arrêter. Est-ce que ça correspond à sa quête du titre ou est-ce que ça correspond à un communiqué qui est sorti de la part de la direction de course le dimanche matin expliquant que les pilotes qui seraient conviés au podium et aussi à la conférence de presse ne devraient porter que leur tenue de pilote avec la combinaison fermée jusqu'en haut, la casquette de l'équipe et le masque, sans rien d'autre. Je me demande si cette consigne d'équipe, Lewis Hamilton ne l'a pas pris pour lui par rapport à son t-shirt qu'il portait lors du podium au Mugello, où on a senti que ça avait mis un petit peu dans l'embarras la FIA et que finalement, on a trouvé un moyen de lui barrer la route. Et ça, je pense que ça l'a troublé, ça l'a vraiment mis sous pression, contrarié en tout cas.
Écoute, Gilles, c'est une très bonne remarque. C'est vrai que ça a peut-être ajouté à l'agacement de samedi. Il avait commis une erreur, drapeau rouge, il se qualifie mal, entre guillemets, en pole position, puisqu'il a un mauvais pneu pour le départ. Pourtant, il garde son avantage, et puis en cours de route, on lui dit qu'il va être sanctionné. Et ça, c'est quelque chose qui devait arriver. Et on l'a vu, en fait, que Mercedes et Hamilton deviennent un petit peu envahissants dans le protocole de la FIA, dans toutes ces modes d'expression pour revendiquer des choses très justes, on l'a dit, mais on lui fait peut-être payer aussi ça parce qu'on sait que ça lui tient beaucoup à cœur. Et je crois qu'effectivement, ça a pu finir de le déstabiliser. À la radio, on l'a entendu tout de suite très énervé. Il n'a pas l'habitude de ça, de perdre son calme. Il y avait la 91e victoire en jeu et c'est comme ça aussi qu'on l'a puni.
Ouais, il était un petit peu rude même vis-à-vis de son ingénieur qu'il a renvoyé quand même assez sèchement lors d'un message radio. Alors ça, c'était pour Lewis Hamilton. Ça a été compliqué aussi pour Sébastien Vettel avec une grosse sortie de piste samedi lors de la Q2. Une modeste 13e place à l'arrivée de ce Grand Prix. On l'a longtemps fait patienter en piste, Sébastien Vettel, si bien qu'après la course, il a dit « on s'est servi de moi comme un bouchon devant les Renault ». Ça donne l'impression que Sébastien Vettel est devenu un peu le Alexander Albon de la Scuderia, c'est-à-dire que c'est une variable d'ajustement pour permettre à Charles Leclerc d'avoir la meilleure stratégie. C'est une phrase lourde là qu'a prononcé le quadruple champion du monde.
Alors s'il l'a dit, c'est que certainement il y a du vrai là-dedans, peut-être même 100% de vrai, parce que on le garde pour gêner les Renault, mais on le garde que deux tours, hein, simplement. Mais il était en détresse pneumatique bien avant Charles Leclerc, pour faire rentrer au 28e, et on le fait rentrer au 30e tour. Mais il a eu le sentiment qu'il était un porteur d'eau. Ça lui passe, mais complètement au-dessus de la tête maintenant. Il dit, de toute façon, je termine 13e, ou une autre place, c'était pareil. Ça ou autre chose, je m'en fiche. Donc là, maintenant, il est un petit peu en roue libre. Il a montré son détachement par rapport à la Scuderia, et ça encore, c'est une petite mesure de rétorsion de Ferrari par rapport au Mugello où il avait annoncé son passage chez Aston Martin en 2021.
Alors, l'histoire ne dit pas si Mattia Binotto lui a demandé de venir pousser sa voiture, parce qu'on a une image quand même très drôle de Mattia Binotto en ce moment. Rien ne va pour le patron de la Scuderia qui est en panne au bord de la route. Regardez ça déjà, c'est assez drôle.
Binotto che tampona. Binotto, ma la Ferrari! Ma come facciamo? Dai, dai!
Et alors Stéphane, la question, est-ce qu'il n'a pas appelé Sébastien, occupe-toi de la voiture en panne, parce que là, en ce moment, on va lui faire toutes les tâches ingrates hein, à Sébastien Vettel.
Mais c'est, Vettel ramasse aussi ses débris de voiture éparpillés façon poste dans le virage numéro 2, oui. Je crois.
Donc, je ne sais plus si c'est le 2, mais non, en tout cas, oui, c'est vrai que c'est étonnant c'était de le voir faire le ménage.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est pour que des pièces aussi assez sensibles sur des ailerons, des choses comme ça, ne traînent pas trop. On sait qu'il y a parfois des pièces qui se perdent en chemin, on va dire, et qui sont récupérées par des gens qui ne devraient pas. Donc, il a mis l'aileron, il essaie de le mettre dans le cockpit. Mais oui, effectivement, il peut peut-être s'occuper de tâches qui ne sont pas prévues dans son contrat, mais qui seraient aussi fort utiles à Mattia Binotto.
Peut-être s'acheter une dépanneuse maintenant, Sébastien Vettel. On en reparlera évidemment hein, la suite de cette relation entre l'Allemand et la Scuderia qui va nous emmener forcément jusqu'à la fin de la saison. Le deuxième point qu'on voulait évoquer avec Stéphane, c'est ce Grand Prix de Russie. C'est ce tracé lui-même. On sort d'une séquence, Stéphane, avec Spa, Monza, le Mugello, des tracés absolument phénoménaux qui nous ont donné à chaque fois des scénarios absolument incroyables. Et là, on arrive à Sochi. Au secours, on se croirait sur un grand parking avec des murs en béton. C'est une plaisanterie. Quand on sort de la piste, qu'on va toucher un vibreur, il faut contourner des plots en polystyrène. On se croirait à Interville, il ne manque plus que les vachettes et on se fait une bonne partie entre Palavas-les-Flots et Main-sur-Loire. C'est fou quand même. Là, à un moment, pour le crédit de la Formule 1, je trouve que c'est assez déstabilisant.
Alors, Gilles, tu l'as tout à fait dit. Quand on a vu aussi Romain Grosjean traverser le virage numéro 2 et ne pas pouvoir repiquer exactement entre les balises en polystyrène, il y avait un côté folklorique qui est un petit peu regrettable. Sainz l'a payé encore plus cher.
Oui.
Mais je dirais qu'il faut revenir à l'essentiel dans tout ça. C'est que si on regarde les prix du plateau de chaque Grand Prix, c'est-à-dire le prix que chaque promoteur paye pour faire venir le championnat, une somme en fait qui est ensuite redistribuée aux écuries, eh bien c'est 48 millions d'euros. Et il n'y a qu'un seul Grand Prix qui devait donner plus cette année, c'est le Vietnam, 55 millions d'euros. Le Vietnam a été supprimé du calendrier. Donc il faut aller absolument en Russie pour déjà cette raison-là. C'est un business, il faut sauver tout ce qu'on peut. Et cette année, plus que jamais. Et puis, je dirais que quand on s'appelle Mercedes, quand on a envie de vendre des voitures en Russie et qu'on gagne 7 fois de suite, on a envie de revenir. Là, c'est d'abord une raison, financière,
économique,
budgétaire. Ouais. On sait que ce circuit est en quelque sorte un circuit olympique voulu par Vladimir Poutine pour l'insérer dans le site des Jeux de 2014. Donc tout ça, ça se tient, mais malheureusement, effectivement, quand on regarde un petit peu ce tracé, on a l'impression que ça a été fait sur un coin de table, sur une nappe, sur un plan, parce que il y a tout ce qu'on n'aime pas trop finalement, des virages paraboliques à rayon constant, des virages à angle droit, des morceaux de ligne droite qui relient tout ça, et c'est pas un truc très très sexy. Même Ricciardo a dit ce circuit est assez étrange parce qu'il est complètement plat et en termes de réglage, c'est assez perturbant. Pour tourner tout seul, les pilotes aiment bien, c'est de la moyenne et de la haute vitesse. Pour faire la course, c'est moins sexy, il y a simplement le virage numéro 1, enfin le 2, plus précisément le premier freinage, le premier gros freinage qui donne de l'action. Voilà. Et on s'est un petit peu ennuyé à part ça, c'est vrai.
Oui, parce qu'en plus, cette histoire, j'en reviens à ce virage là où si on touche le vibreur extérieur, il faut aller prendre une sorte de longue lap, hein, une sorte de contre-allée avec effectivement des plots en polystyrène. C'est dangereux parce que c'est délimité un moment par un mur en béton. Carlos Sainz, qui voulait absolument ne pas prendre de pénalité, finalement a tapé carrément le mur. Il aurait pu être percuté ensuite par un autre concurrent dans le peloton. Finalement, c'est beaucoup plus dangereux qu'un bon vieux bac à gravier qui déjà fait office d'élément de sécurité passive, parce que quand une voiture, même si elle est privée de frein, elle rentre dans un bac à gravier, ben elle est ralentie. On l'a vu encore au Mugello avec le gros accident de Lance Stroll. La voiture a pris, les pneus ont pris, le bac à gravier a absorbé de l'énergie. Et puis, c'est aussi une sanction, le bac à gravier, parce que si vous sortez trop large, ben vous vous retrouvez dans le bac, soit vous y passez, et puis ça vous fait perdre du temps, ça abîme un peu la voiture, donc il y a sanction, soit vous y restez, et la sanction, elle est encore plus grande. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre des bacs à gravier à Sochi, mais on a peut-être des endroits où on peut faire des circuits avec des vraies installations plutôt que ce qu'on a vu là. Je trouve ça un petit peu... pour moi, ça résume tout ce que la Formule 1 doit éviter, clairement. Je ne sais pas ce que tu peux dire pour conclure.
Mais Gilles, en fait, c'est une demande des équipes depuis déjà plusieurs années. C'est Renault, en fait, qui permettent, qui ne sont pas punitifs, qui ne font pas de casse et qui évitent de casser du matériel, d'imposer des longues heures de réparation aux mécaniciens. Ça pèse dans les budgets. À la fin de l'année, forcément. Donc, ça a été voulu comme ça. Le Castellet était un petit peu une anomalie parce que c'est 100% Renault, c'est 0% gravier là-bas. Et on a dit, la conclusion quand on y est retourné en 2018, c'est qu'il fallait faire un petit peu un mix des deux. Et là, en fait, on va de plus en plus vers ça. Alors, le circuit de Sochi est un petit peu particulier. C'est pas réellement un circuit en ville. C'est pas un circuit naturel. C'est une sorte d'hybride. On ne sait pas trop ce que c'est.
C'est ça.
Mais il a fallu mettre des portions bitumées partout. Et pour moi, ça rend la course moins lisible. On est tout le temps dans ces polémiques d'un dépassement des limites de la piste, comme Hamilton n'avait pas à le faire en Q2, donc il a vu son temps annulé. Mais ça donne une somme de pénalités, une épée de Damoclès qui pèse maintenant sur les pilotes. On se pose sans arrêt cette question. Ricciardo a été pénalisé, je crois qu'Albon aussi, en fin de course. Et après, ça peut changer les classements. C'est quelque chose qui est assez désagréable et qui donne lieu aussi à des pénalités qui sont vécues de façon différente, gérées de façon différente. Bon, quant à Hamilton, ça c'est autre chose. Prendre une pénalité de 10 secondes, il peut la purger pendant son pit stop. Mais l'avantage, c'est que quand on s'est arrêté au stand et qu'on sait qu'on a 5 secondes de pénalité, on peut la gérer. Il suffit de prendre 5 secondes d'avance sur son tour suivant et tout est joué. On efface la pénalité. Donc, ça donne lieu quand même aussi à une inéquité dans l'application. C'est ça qui est gênant.
On y reviendra, je pense, parce que forcément, dans les semaines et les mois à venir, on va dévoiler le calendrier de la Formule 1 pour 2021. Et on verra si on retrouve ce genre de circuit. Et de toute façon, il est prévu qu'on retourne à Sochi. Mais voilà, on voulait quand même signaler la différence entre des vrais tracés de Formule 1 comme Spa, Monza, le Mugello, et puis ce tracé de Sochi. Vous aurez compris qu'on était moyennement fan. On va passer à notre troisième point dans l'émission. Stéphane, c'est presque quelqu'un qui porte le même prénom que toi, Stefano Domenicali, l'ancien patron de la Scuderia, qui va prendre le volant de la F1. Il va succéder à partir du mois de janvier 2021 à Chas Carey, qui était donc jusque-là le grand dirigeant désormais du détenteur de droit sur la Formule 1. Alors Stefano Domenicali, ce n'est pas du tout un inconnu dans le monde de la Formule 1. Ça a été donc l'ancien patron de la Scuderia Ferrari de 2008 à 2014. C'est l'homme du dernier titre de Ferrari, celui du titre constructeur en 2008. Et ça fait un petit peu jaser qu'on mette quelqu'un de chez Ferrari à la tête de la Formule 1. On rappelle qu'il y en a un ancien qui était d'ailleurs le mentor de Stefano Domenicali, qui est lui à la tête de la FIA, Jean Todt. Ça fait un peu polémique ?
Alors, ça fait un petit peu polémique. Les conditions en fait, de cette nomination pour choisir l'homme idoine, c'était qu'il devait avoir passé 3 ans en dehors de la Formule 1 ou ne pas être lié à une écurie qui est aujourd'hui dans la compétition. C'est vrai que pour ça, Stefano Domenicali, il répond aux critères. Il a quitté la Scuderia Ferrari en 2014. Il a même été remercié et pas très sympathiquement. Voilà. Il est arrivé en fait chez Ferrari en 1991 et il a gravi tous les échelons. Il est passé directeur sportif en 2002 et puis team manager, successeur de Jean Todt en 2008. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu troublant parce qu'il est très marqué Ferrari. Mattia Binotto, le boss aujourd'hui de la Scuderia, dit c'est quand même la personne la plus neutre qu'on pouvait trouver par rapport à Toto Wolff. Alors, c'est vrai que Toto Wolff, il ne pouvait pas passer directement de Mercedes à super boss de la Formule 1. Binotto a dit qu'il n'en était pas non plus question si Christian Horner avait postulé. Et on peut se poser la question, effectivement, deux hommes qui sont marqués par un passé important chez Ferrari, à la tête des deux grandes institutions, du côté du promoteur, donc Domenicali, et du côté de la FIA, Jean Todt. Alors, Jean Todt qui va quand même laisser son poste, atteint par la limite d'âge, l'année prochaine, en novembre 2021. Donc, on ne va pas exactement avoir très, très longtemps ce tandem, et qui peut effectivement rappeler que, inconsciemment, le passé amène à une certaine mansuétude quand on gère des dossiers chauds cet hiver. Jean Todt a fait valoir le secret pour la question du moteur Ferrari, de sa légalité, alors que toutes les autres écuries voulaient savoir ce qu'il y avait dans le moteur, et Jean Todt a dit, bien non.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Cela dit, Jean Todt, ancien patron emblématique de chez Ferrari, est actuellement président de la FIA. On est en train de vivre une des pires périodes pour le constructeur italien. Donc, finalement, on voit qu'il n'y a pas vraiment de traitement de préférence. Il faut rappeler que Stefano Domenicali a aussi été pendant un certain temps président de la commission monoplace à la FIA, qu'il a aussi été dans le groupe Volkswagen, président aussi de la destinée de Lamborghini, de la destinée sportive. Donc, il a continué, évidemment, dans l'univers, en dehors de chez Ferrari. En remplaçant Chas Carey, est-ce qu'on ne cherche pas à donner aussi un regard un petit peu plus européen que celui de l'américain Chas Carey sur la Formule 1, alors qu'on va s'attaquer à des réformes importantes? On voudrait, du côté de l'entreprise qui détient les droits de la Formule 1, s'attaquer à des grands chantiers pour moderniser la Formule 1, et une sorte de caution en disant, voilà, on sait que c'est un domaine un petit peu particulier et on va mettre quelqu'un qui connaît l'histoire, la tradition de la Formule 1.
Oui, alors, tu l'as dit, Gilles, Stefano Domenicali, c'est un ancien qui a un grand passé chez Ferrari, mais je pense qu'en Formule 1, il sera le gardien du temple. C'est quelqu'un qui est très attaché à la valeur sport, qui a peut-être vu d'un œil un petit peu méfiant toute cette tendance au chaud, et je pense qu'il va freiner les cas de fer pour ça. Sur la question voulue par Rose Brown, avec qui il travaillait à la Scuderia Ferrari dans les années 2000, voulue par Rose Brown, une grille inversée et avec une course de qualification le samedi, ça, je pense que le projet va être enterré très, très vite. On a compris le manque d'intérêt pour ça, et quelqu'un comme Cyril Abitboul, qui n'était pas franchement contre, est passé dans le camp des contres. Il ne veut pas voir ça en disant qu'on n'a pas besoin de show. On en a parlé aussi sur la question des circuits, finalement, et le travail premier de Stefano Domenicali, ça va être fabriquer le calendrier, savoir sur quelle piste on va, et je pense que de ce côté-là aussi, il va être assez traditionnaliste. On va peut-être éviter des pistes un petit peu modernes, surfaites, sans caractère. Bon, après, on verra ce que donnera le circuit du Grand Prix qui se dessine en Arabie Saoudite, qui est annoncé pour l'année prochaine. Mais je crois qu'il va préserver l'essentiel de l'ADN de la Formule 1. Tu l'as dit, il a une vision européenne. C'est très important. Et puis, par contre, en bout de mandat, enfin, sur les accords Concorde, à l'horizon 2023-2024, il aura à négocier les accords Concorde. Et là, à trancher, est-ce qu'on garde pour Ferrari la notion du veto, c'est-à-dire sur certaines choses, comme Ferrari a posé son veto en fait pour la candidature de Toto Wolff pour être le boss du promoteur de la Formule 1. Donc il va avoir aussi des questions un petit peu sensibles à régler de ce côté-là, mais il va s'occuper un petit peu du calendrier, du business, et Rose Brown va garder un petit peu le sport, mais je pense que Stefano Domenicali va être un élément pondérateur dans cette histoire.
Ouais, on sait que c'est quelqu'un de très fin aussi politiquement, et il se trouve qu'on n'a pas d'image de lui en panne au bord de la route, donc en termes d'image, c'est quand même un peu mieux que Mattia Binotto. On va passer à notre dernier acte, et c'est le gros dossier de l'émission, Stéphane, la guerre de Troie avec McLaren, Racing Point et Renault qui se tiennent dans un mouchoir de poche au classement des constructeurs. Là, je prends mes notes parce qu'il faut être précis. McLaren, 106 points. Racing Point, 104 points. Et Renault, 99 points. Donc, c'est-à-dire 7 points de retard par rapport à McLaren. C'est évidemment très important parce que la 3e ou la 5e place du classement des constructeurs à la fin de la saison, ça fait une grosse différence en sonnant et en trébuchant. Alors, en fouillant un peu, on peut dire que la 3e place là, sur les deux dernières saisons, ça ramène entre 120 et 150 millions de dollars. La 5e, c'est entre 60 et 70. Donc on est en train de parler de valeurs qui sont du simple au double. Et donc ça va conditionner quand même beaucoup de choses pour la suite. Je te propose, Stéphane, de commencer par McLaren. Et de manière un petit peu troublante, en analysant les résultats, je me suis aperçu que McLaren, sur les 8 derniers Grands Prix, n'avait placé ses deux autos dans les points qu'à deux reprises. Et je me dis finalement que les hommes de Zak Brown, eh bien, ils sont un petit peu en perte de vitesse, même s'ils ont obtenu deux podiums cette saison. On sent que ça s'essouffle un petit peu. Est-ce que c'est ton sentiment ?
Alors oui, c'est mon sentiment. Pour revenir sur ce que tu as dit, Gilles, en fait, ce que je trouve un petit peu particulier aussi cette année, c'est que normalement, cette lutte entre McLaren, Racing Point et Renault devrait concerner la 4e place. Mais Ferrari est tombé au 6e rang. Et là, il y a un accessit absolument formidable qui s'offre à l'une de ces trois équipes qui ont des statistiques un petit peu curieuses. Deux podiums pour McLaren, un pour Racing Point et aucun pour Renault encore. Tu l'as dit, McLaren s'essouffle un petit peu. C'est clair, ils ont sauvé l'édifice de la banqueroute en obtenant un prêt exceptionnel de leur partenaire actionnaire à Bahreïn début juillet. Ils ont mis en vente aussi le McLaren Technology Center. Alors, McLaren, il y aura toujours son quartier général, mais Zak Brown a dit, non, c'est Andrea Seidel, le team principal, qui a dit, en fait, on va être sur un schéma classique, c'est-à-dire qu'on va occuper des locaux qu'on n'a pas
Ils vont devenir locataires.
En fait, on va essayer d'en tirer à peu près 200 millions de dollars, je crois. Donc ça sera injecté dans l'équipe. Mais je pense que On s'est serré la ceinture chez McLaren depuis quelques mois. On sort juste du tunnel et ça commence à se voir. À la mi-championnat, c'est toujours pareil tous les ans. C'est en juillet à peu près où on voit quelles écuries ont encore du souffle, du potentiel pour investir dans du développement et faire progresser les machines. Et là, on a l'impression, même si on a vu des choses nouvelles ce week-end, aileron avant, aileron arrière, des choses intéressantes, que chez McLaren, on n'arrive pas à soutenir le rythme de développement d'une écurie qui doit terminer sur le podium du championnat.
On va passer à Racing Point en rappelant tout d'abord que Racing Point, s'ils sont seulement quatrième du classement des constructeurs en ce moment, c'est en enlevant les 15 points que l'équipe a pris à cause de l'histoire de la copie des écopes de frein. Un podium en tout cette saison, tu le disais tout à l'heure Stéphane, on est vraiment loin de l'épouvantail hein, qu'on annonçait en début de saison avec la copie de la Mercedes. On sent une équipe pas franchement capable de saisir les opportunités qui se proposent, qui s'offrent en course. On l'a vu notamment à Monza. Et une ambiance un petit peu particulière qui m'a été remontée par un de mes contacts, notamment autour de Sergio Pérez. On sait qu'il y a une équipe technique qui est plutôt très soudée autour du pilote mexicain qui va partir à la fin de la saison remplacé par Sébastien Vettel. Et il y a des mécanos, des ingénieurs qui ont un petit peu de vague à l'âme. Et tout ça, eh ben, ça fait que l'équipe ne marche pas forcément aussi bien qu'on aurait pu l'espérer.
Plusieurs voix se sont élevées ce week-end pour dire qu'il ne fallait pas que tout ça tourne un petit peu à l'aigreur. Le podium, le seul podium de la saison, c'est Stroll, je crois qu'il l'a fait.
À Monza.
Et en fait, Pérez, lui, sur son CV, ce qu'il a surtout cette année, c'est deux Grands Prix auxquels il n'a pas pu participer parce qu'il était touché par le Covid. Et c'est quand même le pilote de base de l'écurie. Et là aussi, je pense que ça fait un petit peu mal, même si Hülkenberg a fait un job décent. Mais là-dessus, je dirais que le tandem n'est pas très équilibré, moins homogène que chez McLaren et moins fort que chez Renault. Et tout ça, mis bout à bout, fait que là, c'est pareil, on s'essouffle un petit peu. Puis en termes de développement, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On regarde la voiture de la Mercedes de l'année dernière. Qu'est-ce que Mercedes faisait en termes de développement au mois de juillet, au mois d'août, pour savoir comment quelle pièce mettre sur la voiture?
Bon, où est-ce qu'on commence à s'intéresser à ce qui va se passer pour Aston Martin en 2021?
Ouais, mais c'est ça, c'est que là maintenant ils sont dans le dur parce que reprendre une base c'est très très bien, mais quand on n'a pas le mode d'emploi c'est beaucoup plus difficile. Andy Green est un directeur technique de talent, mais effectivement on s'essouffle. Et puis, quand il arrive des choses comme la sortie de piste de Stroll ou Mugello, bah, ça ne fait qu'une voiture à l'arrivée. Et Renault a régulièrement maintenant deux voitures en Q3 et deux voitures dans les points. Et à la longue, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et je me souviens, lorsque la pénalité de 15 points est appliquée à Racing Point, Renault trouvait que c'était faible. C'est pour ça qu'ils ont porté réclamation. Et ils ont dit, de toute façon, si on leur enlève 15 points, ça c'est Cyril Abitbol qui l'a déclaré, il a dit, de toute façon, on va plus les revoir, ils vont s'envoler très très vite. On était loin d'imaginer qu'ils allaient stagner et que Renault allait les reprendre petit à petit au point d'évidence d'être la troisième écurie du championnat. Je pense que ça va se terminer comme ça.
Bah justement, on va en parler de Renault. Là aussi, je regarde mes notes parce qu'il faut être précis. Renault, mon cher Stéphane, a engrangé 6 points lors des 6 premiers Grands Prix de la saison. C'est facile, ça fait 6 points par Grand Prix. Eh bien, Renault a marqué 63 points sur les 4 dernières épreuves. Ça fait un peu plus de 15 points. On est donc passé de 6 points en moyenne à 15 points par Grand Prix. Bah, moi, c'est ce que j'appelle une montée en puissance. Si bien qu'aujourd'hui, on se dit, il n'y a pas de podium pour l'équipe Renault cette saison en Formule 1. Et c'est ça la curiosité. C'est la seule chose qui manque aujourd'hui à Renault pour vraiment aller briguer cette troisième place du classement des constructeurs. C'est une curiosité quand même, cette absence de podium.
C'est sûrement une anomalie. Ricciardo a tourné autour. Il a raté peu au Mugello. Mais je dirais que des trois équipes dont on parle, il n'y en a qu'une seule qui a vraiment un top gun. C'est Renault avec Ricciardo. Et je trouve très intéressant ce qu'il fait des essais du samedi en essai libre 3 à la qualification. Souvent, il change ses réglages dans la bonne direction. Dernièrement, il est revenu à ses réglages du vendredi parce que ça ne collait pas du tout. Je crois que c'était au Mugello. Et c'était bonne pioche. Il était derrière Ocon et d'un seul coup, il est passé devant et pas qu'un peu. Et ils peuvent s'appuyer maintenant sur un pilote qui est sérieux. L'année dernière, il était un petit peu dispersé. Parfois, il faisait n'importe quoi. Là, je le trouve vraiment focus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je dirais que chez Renault aussi, on a mieux géré le cas de ce pilote partant, puisqu'on parle de McLaren et de Racing Point qui ont aussi un pilote qui est soit partant, soit remercié. Et on voit que c'est là où ça se passe le mieux et où on a digéré le plus vite. Peut-être aussi parce qu'on l'a su assez rapidement et qu'on a pu trouver un gros calibre pour remplacer Daniel Ricciardo l'an prochain.
Mais c'est vrai que cette relation que tu évoques entre Daniel Ricciardo et Renault, qui vont donc se séparer à la fin de la saison à l'initiative de Daniel Ricciardo, finalement, elle ne souffre pas de la décision de l'Australien. On voit même de la connivence entre Daniel Ricciardo et le patron, Cyril Abitbol, avec ce pari. Hein. En tout cas, si Daniel Ricciardo ramène un podium, il pourra choisir ce qu'on va tatouer sur Cyril Abitbol. Ça dénote quand même une connivence. Et on voit que ça continue effectivement à bien travailler, que Daniel Ricciardo reste parfaitement concentré sur tout ce qu'il a à faire. On parlait un petit peu de vague à l'âme du côté des proches de Sergio Pérez chez Racing Point. C'est même à se demander si c'est pas Daniel Ricciardo qui aurait un petit peu de vague à l'âme en quittant une équipe Renault où finalement on sent une ambiance assez familiale pour aller dans une équipe McLaren où on sent qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué. C'est étonnant quand même cette situation et Renault qui va devenir Alpine la saison prochaine. Des trois équipes dont on vient de parler, c'est clairement celle qui a le vent en poupe en ce moment. C'est notre favori, enfin en tout cas le mien, je ne sais pas pour toi, pour la troisième place du classement des constructeurs.
Oui, tout à fait. Et Renault a fait quelque chose d'un petit peu nouveau en assumant complètement nommer Ricciardo pilote numéro 1 pendant la course. Les deux Renault étaient coincés derrière Vettel. Ocon ne parvenait pas à dépasser Vettel. Et là, l'ordre est tombé très très vite. Il fallait laisser passer Ocon pour que Ricciardo puisse aller chercher Vettel, ce qu'il a fait tout de suite. Et donc là, c'était une décision sans ambiguïté et qui a été validée par le pilote australien. Donc ça, c'était en termes de stratégie. Et je dirais qu'en termes en capacité opérationnelle, ils sont vraiment bien depuis quelques grands prix aussi. Et je note une petite chose, il y a un petit championnat qui est organisé par un sponsor de la Formule 1 qui note, qui regarde bien, qui chronomètre en fait les interventions des équipes au pit stop. Et qui dit une chose suivante, c'est que Renault, en fait, est la cinquième équipe la plus performante au stand, derrière Red Bull et Mercedes qui occupent les deux premières places en termes de rapidité, alors que McLaren et Racing Point, je regarde mes notes, sont huitième et neuvième. Il n'y a que Haas qui fait pire que McLaren et Racing Point au pit stop. Donc ça veut aussi dire quelque chose. C'est un signe très fort. Donc Renault, troisième du championnat, avec un podium, ce serait juste parfait et ce serait amplement mérité, à tout point de vue.
Ouais, ce qui manque, là, on le sent. Hein. En fait, c'est la course référence, ce podium, en gros, pour libérer les énergies. Hein. On sait que souvent, un pilote ou une équipe a besoin de quelque chose qui débloque un petit peu la situation. Et il manque vraiment juste ça. C'est juste un détail pour Renault. On est d'accord ?
Voilà, il manque juste un petit tatouage sur, sur l'épaule du boss.
On ne sait pas où. On ne sait pas où. C'est lui qui choisit le lieu, l'endroit hein, du tatouage. Et c'est Ricciardo qui choisit le dessin. Ça promet quand même quelques bons moments du côté de Viry-Châtillon ou de Enstone. On ne sait pas quel tatoueur sera désigné, mais on sera sur le coup. Ça, on peut vous promettre que toutes les équipes de Eurosport.fr seront sur le coup. Je crois qu'on en a terminé avec nos quatre sujets, Stéphane. On va juste rappeler à ceux qui nous regardent que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast, par Apple Podcast. Mettez-nous des étoiles, plein le maximum, et puis abonnez-vous à notre application comme ça. Dès qu'on mettra un nouvel épisode des Fous du Volant, eh bien, vous l'aurez directement dans votre application. Il n'y a pas de Grand Prix ce week-end. On se retrouvera pour la 11e manche du côté du Nürburgring. Alors, pas la Nordschleife, hein, ça sera le circuit de F1. Terre allemande pour une victoire Mercedes et éventuellement égaler le record de victoire d'un certain Michael Schumacher. Ça paraît être vraiment l'objectif fixé par, par Mercedes et par Lewis Hamilton, j'imagine.
Ce serait une belle histoire, oui, on l'espère. Il s'est contenté du podium sur des faibles circonstances, des petites bisbilles. Hein. On avait parlé de guerre la dernière fois après Mugello entre Mercedes et la FIA. J'espère qu'on aura refermé le chapitre. Et Mercedes a dit une chose très importante, c'est qu'à partir de maintenant, ils vont regarder dans le règlement toutes les procédures qui peuvent être ambiguës et qui peuvent donner lieu à une sanction et qui n'auraient pas déjà été sanctionnées. Donc, c'est méfiance totale pour Mercedes parce que Hamilton garde 8 points il a 8 points sur 12 sur sa super licence. S'il en perd 4 d'ici la fin de la saison, en fait, il perdra sa super licence et il aura un grand prix de suspension. Donc, l'heure est grave. Comme je dis souvent, on va resserrer les boulons et puis normalement ça devrait le faire. En tous les cas, on espère un moment d'histoire pour le prochain rendez-vous de Nürburgring en terre allemande.
En tout cas, c'était un peu tard pour aller analyser les procédures pendant les Grands Prix. Il aurait peut-être fallu le faire un tout petit peu avant, mais c'est bien, ça a donné du spectacle et puis ça nous a donné à analyser, mon cher Stéphane. Eh ben, merci beaucoup pour toutes tes observations.
Et merci, on se donne
pour le prochain numéro.
Je peux te retourner compliment, bien sûr.
Allez, on coupe le contact. Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.